C'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MJV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news. Hello.
Il est 9h40 sur France Inter. Soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Vous coupez ?
Non, je coupe pas.
Vous êtes en direct, allez-y.
Reportage sidérant dans Envoyé spécial. Des Américains qui meurent en quelques secondes d'overdose sur le trottoir, dans les supermarchés ou au volant de leur belle voiture. Des Américains ruinés par des années de dépendance chimique. Des bébés qui naissent en manque. Et dans le même temps, un laboratoire pharmaceutique qui engrange 3,5 milliards de dollars de recettes. Car la drogue qui ravage les États-Unis est un médicament et cette épidémie meurtrière a été dûment planifiée. L'oxycontin, pilule antidouleur aux opioïdes en image, à voir ce soir sur France 2.
L'Instant M, Sonia De Villers sur France Inter.
L'oxycontine et bien d'autres médicaments. Bonjour Pierre Monégier.
Bonjour Sonia.
Alors, envoyé spécial, le sujet, ça va être le deuxième sujet au menu ce soir de la soirée de France 2, antidouleur, l'Amérique dévastée, que vous co-signez cette enquête avec Brice Bobby et Emmanuel Lejeune qui vous ont accompagné aux États-Unis. On en est resté absolument quoi dans l'équipe des images que vous en avez rapportées et notamment des images amateurs que vous avez également choisi d'insérer dans le sujet. À vos côtés, Bruno Donnet, vous allez me dire c'est pas normal, on est jeudi, vous avez raison Pierre, normalement Bruno Donnet c'est le vendredi, mais sachez que demain c'est la médiatrice des antennes de Radio France qui prendra notre place. Alors Bruno, cette semaine vous êtes tombé sur un spot de pub pour des préservatifs de la marque Durex et vous avez été très surpris de constater à quel point dans la publicité, les stéréotypes avaient la vie dure.
Oui, vous le savez probablement Sonia, dès qu'il s'agit d'essayer de nous vendre un truc à nous, les hommes, la publicité utilise systématiquement la même ficelle, elle vient titiller notre virilité. Mais attention, elle le fait en prenant grand soin de spéculer aussi sur un doute, sur une angoisse qui est censée nous étreindre tous de manière permanente notre capacité à réussir à vous séduire, vous. Les femmes.
Oui.
Ainsi, à la fin des années 80, une pub pour du déodorant qui commençait par une petite musique de film porno montrait un type qui, après qu'il se fût copieusement aspergé le torse de déodorant, faisait se pâmer de bonheur une femme, laquelle, venant de renifler son irrésistible odeur, n'avait plus qu'une seule idée en tête, coucher dardard avec lui. C'était caricatural en diable, ça puait la testostérone et le premier degré, et le slogan nous disait ça.
Laissez le charme agir.
Voilà, le message était donc extrêmement limpide. Il sous-entendait, les gars, séduire une femme, c'est pas de la tarte, mais si vous achetez notre machin, vous allez toutes les emballer. Eh bien, 30 ans plus tard, figurez-vous que rien, absolument rien n'a changé. C'est même pire, car si, il y a 30 ans, la pub nous expliquait que c'était coton de séduire une fille, aujourd'hui, elle nous affirme qu'il est extrêmement difficile de la faire jouir. Allons bon, écoutez donc un peu de quelle façon débute le spot de pub pour les capotes Durex.
Deux femmes sur trois n'atteignent pas l'orgasme quand elles font l'amour.
Voilà, alors ne me demandez pas d'où vient ce chiffre, il n'y a pas la moindre source bien entendu. Durex ne s'embarrasse ni d'exactitude ni de rigueur scientifique car le problème n'est pas là Sonia, le problème c'est que la plupart des femmes ne jouissent pas quand elles font l'amour et que...
Cela doit changer.
Voilà. Et comment Durex s'y prend-elle pour faire changer les choses? Eh bien, elle a inventé un truc miraculeux dont elle a badigeonné ses capotes, un gel.
Nouveau gel Durex Orgasme Intense permet d'intensifier les sensations et d'amplifier le plaisir.
Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit exactement cette pub et pourquoi est-ce qu'elle est totalement consternante? Eh bien, elle nous dit d'abord que pour faire jouir une femme, il n'y a qu'un moyen, il faut la pénétrer avec un fier phallus. Alors, je ne sais pas ce que disent les statistiques des gars de chez Durex, mais il me semble quand même qu'ils ont oublié de s'intéresser à un petit organe pourtant absolument passionnant, le clitoris. Mais passons. Car ce que nous dit surtout cette pub, c'est que l'orgasme, c'est le Graal, le truc qu'il faut absolument atteindre et que pour ce faire, il suffit de se mettre un peu de poudre de perlimpinpin autour du machin. En d'autres termes, on trouve dans ce spot de publicité tous les clichés les plus épouvroyables de l'injonction à jouir, à faire jouir en passant par le culte de la performance et l'obligation de résultat, y compris en matière de plaisir. On croit rêver, voilà pourquoi on a un peu envie de dire aux pubards de chez Durex, occupez-vous donc de nous protéger des maladies sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées, mais lâchez-nous la grappe avec vos injonctions et votre gel à la con, car c'est gênant, et comme nous le savons tous parfaitement bien, où il y a du gel, il n'y a pas forcément du plaisir.
Merci Bruno, dans un registre qu'on n'a pas toutes les semaines, hein, mais à réécouter sur franceinter.fr. De toute façon, il n'y a que les stéréotypes qui tuent l'amour et le plaisir, c'est bien connu. Allez, direction les États-Unis avec envoyé spécial.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Une petite ville banale de l'Ohio, ravagée par la dépendance aux médicaments opioïdes antidouleurs. Témoignage d'un simple flic. Écoutez comment il décrit la situation. C'est simple. On dirait l'Amérique de Walking Dead. On dirait une ville attaquée par les morts-vivants ou les zombies.
On a eu tellement de morts par overdose que la morgue était débordée. On s'est retrouvé à court de Narcan pour sauver les gens et empêcher les overdoses. Les commerces ont commencé à ne plus pouvoir recruter parce qu'ils ne trouvaient plus personne à embaucher. Qui ne soient pas tombés dans l'addiction. Les gens ne pouvaient plus faire leurs courses chez Walmart sans se faire braquer sur les parkings par des gens devenus accros. C'était devenu un problème qui concernait tout le monde dans la communauté. Et il y a 18 mois encore, franchement, je ne savais plus quoi faire.
L'enquête est signée Brice Bobby, Emmanuel Lejeune et Pierre Monégier qui m'ont invité ce matin. Il y a des années, Pierre Monégier, les policiers de la ville alertaient le procureur. Nous n'avons plus affaire à des dealers de drogue, à des narcotrafiquants, mais à des citoyens qui se revendent des médicaments sous le manteau. Dédain du parquet, manifestement, qui a mis 5 ans à réagir. Trop tard. Aujourd'hui, vous dites, la situation est hors de contrôle. Quelques chiffres d'abord. 200 Américains meurent par jour, 300 000 depuis 20 ans. En réalité, il y a plus de morts par la dépendance aux médicaments opioïdes qu'avec les armes à feu et la sécurité routière combinées, c'est ça ?
Exactement, exactement. Même on est passé à près de 400 000 depuis cette version du reportage que vous avez reçue. Les chiffres consolidés aujourd'hui sont à près de 400 000 morts en 20 ans. Et c'est effectivement le chiffre de 72 000 morts, c'est sur l'année 2017. 72 000 morts, c'est plus que tous les morts américains de la guerre du Vietnam, par exemple, en un an.
Débat au sein de l'équipe de l'Instant M. Fallait-il diffuser sur France 2 ces vidéos amateurs de retraités agonisant sur un trottoir sous le soleil de Memphis, des femmes qui s'écroulent au supermarché face aux hurlements de leurs enfants, un monsieur qui s'éteint brusquement au volant de sa voiture?
Alors, précision importante, ce sont des gens qui ont survécu à leurs overdoses, qui se sont souvent exprimés après. Ce sont aussi des images qui ont été filmées parfois par les policiers, qui ont été diffusées notamment par des commissariats et par des organismes de santé américains,
qui alertent,
avec l'accord des personnes, pour alerter sur la situation. Parce que le vrai problème de cette situation, c'est l'espèce de tabou absolu. Le fait qu'on ne se rende pas compte qu'on a affaire à une épidémie qui concerne votre voisin, vos proches. Quand vous commencerez à en parler autour de vous, vous verrez forcément que quelqu'un que vous connaissez, même en France, a commencé à prendre des pilules qui s'apparentent à celles qu'on voit dans le reportage.
Alors restons aux États-Unis. Deux petites questions parce que quelque chose nous a beaucoup surpris. Donc des policiers qui sont très 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 fréquemment et qui commencent à peine à être formés pour cela, qui sont très fréquemment appelés en intervention d'urgence avec quelqu'un qui est à l'agonie. Et ils vous expliquent que c'est tellement risqué pour eux de toucher quelqu'un en pleine overdose à cause des opioïdes qu'ils sont obligés de mettre des gants. Pourquoi mettre des gants quand on arrive en intervention d'urgence?
Exactement. Et d'ailleurs, le policier qu'on vient d'entendre, l'un de ses collègues, a fait une overdose en intervenant sur une overdose. Pourquoi? Parce que les substances dont on parle aujourd'hui, les plus fortes de ces substances, c'est-à-dire le fentanyl de synthèse, le carfentanyl, sont tellement concentrées que simplement s'il en reste un petit peu, soit sur la victime, soit autour, vous ne le verrez pas.
Donc c'est quoi? C'est la transpiration, la salive?
C'est par la transpiration, c'est des microparticules qui vont arriver. Et parce que vous allez en avoir sur les mains et qu'ensuite vous allez vous toucher les yeux, la bouche, le nez, peu importe, vous risquez vous aussi de faire un accident de surdose.
D'accord. Alors les femmes consomment à haute dose ces médicaments antidouleurs, y compris des femmes enceintes. Toutes les 20 minutes, apprend-on, un bébé naît intoxiqué aux opioïdes. S'il n'a pas sa dose après la naissance, il se tord de douleur. Il peut même en mourir.
La première nuit, elle a bien dormi. Mais le lendemain de sa naissance, elle n'arrivait plus à dormir. On ne pouvait pas la toucher. Je ne pouvais plus la prendre dans mes bras. Elle gigotait dans tous les sens. Elle voulait manger sans arrêt, mais ça la rendait malade. Je voyais bien qu'elle souffrait. C'était dur. Ça m'a brisé le cœur.
Voilà, vous avez filmé, Pierre Monnevier, un bébé qui prend de la morphine 8 fois par jour. Un bébé de 15 jours qui prend de la morphine 8 fois par jour. C'est totalement sidérant. Et ce que vous nous dites, c'est qu'on ne sait rien des conséquences que ça aura à terme sur le développement de cette petite fille, comme de milliers d'enfants.
Oui, on ne sait pas encore. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'abstinence néonatale.
Ouais.
Dans cette clinique du Tennessee, il y a des dizaines et des dizaines d'enfants qui naissent comme ça. Ce n'est pas toujours d'ailleurs diagnostiqué parce qu'en fait, il faut 48 heures pour percevoir les premiers symptômes. Mm-hmm. Et que pendant longtemps, il y avait des bébés qui sortaient trop tôt. Du coup, dans le Tennessee, désormais, on fait des tests aux femmes qui arrivent enceintes aujourd'hui pour vérifier qu'elles-mêmes n'ont pas été intoxiquées, n'ont pas pris des médicaments de ce type, mm-hmm. et pour savoir si le bébé a un risque de développer cette maladie. Mais effectivement, on ne sait pas encore, on n'a pas encore le recul pour savoir quel type de symptômes, quel type de conséquences ça va avoir. On commence à le percevoir parce qu'aux États-Unis, ils ont quand même 15 ans à peu près d'expérience de cette maladie.
La plus grave crise sanitaire qu'ait connue l'Amérique, nous explique envoyé spécial ce soir, un médicament à l'origine de cela, l'oxycontine. Alors on va voir qu'il y a l'oxycontine, il y a ses dérivés, il y a ses génériques et puis ensuite il y a toute une famille autour de l'oxycontine. En fait, l'oxycontine a été mis au point pour soulager les patients en phase terminale du cancer. C'est donc ce qu'on appelle une toute petite niche, ça concerne peu de gens. D'où un matraquage marketing, et c'est ça que vous détricotez dans le reportage, un matraquage marketing pour inciter les médecins à en prescrire plus et les patients à ne pas se méfier des composants opiacés. Pub.
N'ayez pas peur de prendre ce que le médecin vous prescrit. Souvent, il s'agira de médicaments opioïdes. Certains patients ont peur de prendre des opioïdes car ils les croient trop puissants ou addictifs. Mais c'est loin d'être le cas. Moins de 1% des patients qui prennent des opioïdes deviennent dépendants.
Alors, bienvenue dans un pays où la publicité, notamment la publicité médicale, est totalement dérégulée. Mm-hmm. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Vous avez repéré également des films de 30 minutes dans les années 90 qui s'intitulaient « Revenir à la vie », témoignage de patients modèles dont l'oxycontine, pour qui l'oxycontine a été extrêmement important parce que ça a soulagé des douleurs qui gâchaient leur vie. Et là, on met le doigt sur quelque chose de très important. Vivre avec la douleur et enfin pouvoir en sortir.
Ouais, effectivement. Si la raison pour laquelle cette communication dont vous venez de parler, elle a fonctionné, c'est que il y avait un terreau favorable. C'est qu'en fait, les médecins voyaient des gens arriver. Quand vous allez chez le médecin, vous dites quoi ? J'ai mal. Mm-hmm. Et que vous plaignez constamment de la douleur. Mm-hmm. Et qu'en fait, vers la fin des années 90, aux États-Unis en particulier, on s'est rendu compte qu'on faisait des choses formidables avec la médecine. On faisait de la thérapie génique, on faisait énormément de choses, mais que sur la douleur, on faisait pas grand-chose, en fait. Et donc,
ça
cet argument, il a
ça
porté.
Ça reste un des grands enjeux et un des grands problèmes de la médecine, la prise en charge de la douleur.
Et alors, on s'est dit quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand vous êtes opéré aujourd'hui et que vraiment, ou que vous êtes victime d'un accident, qu'est-ce qu'on vous donne ? On vous donne de la morphine à l'hôpital, c'est très contrôlé, mm-hmm. on vous en donne pendant quelques jours seulement, ça vous soulage, effectivement. Et depuis l'Antiquité, les médecins savent que la morphine, c'est à la fois une bénédiction, ça soulage, et une malédiction, car très vite, on en devient dépendant.
Dépendant. Alors, vous avez retrouvé Pierre Monnevier 20 ans après les gens qui ont témoigné dans ces films publicitaires adressés notamment aux médecins.
Ceux qui ont survécu.
Voilà, parce que, ouais, c'est ça, une partie d'entre eux sont morts.
Ouais, effectivement. Et
mort d'overdose. Hein.
Mort d'overdose, mm-hmm. ou mort avec un accident respiratoire, effectivement, type overdose, au volant. Tous ne sont pas morts. Mais pour eux, c'est aussi, ceux qui ont survécu, c'est souvent très difficile d'en parler. Mm-hmm. Parce que, voilà, il y a cette femme, Lorraine Cambra, qui a accepté de nous recevoir. J'ai beaucoup, beaucoup discuté avec elle parce que sa situation est un peu connue. Elle avait jamais reçu de journaliste.
Ouais.
Beaucoup de journalistes américains l'ont contactée. Elle avait jamais reçu de journaliste. La raison pour laquelle elle nous a parlé, je le dis tout de suite, c'est parce qu'elle souhaitait alerter la situation et alerter les Français également. Et donc, elle nous a confié son témoignage. On est allé la voir là un dimanche. Elle vit chez sa fille parce qu'elle a tout perdu. Et elle a attendu que toute sa famille, ses petits-enfants, ses enfants soient partis à la messe parce qu'elle ne voulait pas en parler devant eux, même si elle voulait bien en parler à la télévision.
Voilà, une femme qui a terminé SDF, qui a tout perdu, emploi, argent, ruiné, oui. Sa vie, sa famille, son couple. Et derrière cela, un laboratoire, Purdue Pharma, déjà condamné en 2007. Alors, c'est là où vraiment cette histoire devient absolument insensée. Déjà condamné en 2007 pour marketing trompeur, une victoire à l'époque pour la justice et pour les victimes. 600 millions de dollars d'amende. Ce que vous dites en réalité, c'est que c'est une misère par rapport aux revenus de l'oxycontine. À partir de 2007, le laboratoire change de stratégie. Et au lieu de matraquer de la pub, on inonde le marché de visiteurs médicaux et on offre aux médecins 34 000 boîtes d'oxycontine pour qu'ils le testent sur leurs patients.
Exactement. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une virgule qui s'est baladée au début de l'émission. C'est pas 3,5 milliards de dollars qu'ils ont engrangé grâce à ce médicament.
C'est 35.
C'est 35.
C'est 35. J'avais un doute et je me suis dit ça n'est pas possible. Voilà. C'est 35 milliards de dollars de revenus.
C'est pour ça que l'amende de 600 millions de dollars, nous on la compare et les médecins aux États-Unis qui travaillent là-dessus, compare à une petite infraction sur le code de la route. Vous n'en avez pas grand-chose à faire.
À peine.
Et c'est comme si un laboratoire qui n'est pas coté en bourse, qui n'est pas ouvert, on a mis très longtemps à savoir en fait quel type de bénéfice y réaliser. Ouais. C'est pas le seul laboratoire qui vend des opioïdes.
Non.
C'est celui qui a ouvert la voie, en fait. Il y en a d'autres qui se sont jetés dessus. Un laboratoire qui s'appelle Insys Therapeutics aux États-Unis, dont le fondateur et dirigeant aujourd'hui risque 30 ans de prison pour avoir inondé le marché de fentanyl, pour fraude à l'assurance, pour avoir encouragé ses employés à mentir, pour avoir recruté des stripteaseuses qui allaient dans les cabinets médicaux pour soi-disant en représentante médicale pour aller offrir des lap dance aux médecins en échange de prescriptions plus larges.
C'est totalement effarant ce que vous racontez. Et derrière Purdue Pharma, il y a une grande famille. Son nom commence à peine à être évoqué en réalité au grand jour. Ce sont des milliardaires philanthropes qui financent les plus beaux musées du monde. Des activistes s'y sont réunis pour hurler le nom de leur bourreau aux oreilles du grand public.
Il faut qu'ils paient les désintoxications. Des centaines de personnes meurent chaque jour. Des milliers sont mortes à travers le pays. Et maintenant, ils s'implantent en Europe. Et ils vont tuer là-bas aussi.
La famille Sackler, la famille la plus secrète d'Amérique, Pierre Monnier.
Sans doute l'une des familles les plus secrètes. Alors aujourd'hui, aux États-Unis, ils ont un coup de projecteur dans le visage qui les ennuie un peu, mais une famille très secrète. Le nom de Sackler est connu. Il est connu. Hein. Si vous allez au Louvre aujourd'hui, il y a une aile Sackler, une galerie Sackler. On a d'ailleurs donné la Légion d'honneur à l'un des Sackler en France. Il vivait au Cap d'Agde. On a aux États-Unis, au Smithsonian, au Guggenheim, au Met, leur nom. Ça, ils le mettent partout. À Tel Aviv, ils ont fondé une école de médecine.
Mais jamais une interview. Jamais une vidéo, jamais une apparition publique médiatisée, non. jamais. À l'origine de cette dynastie, il y a un homme qui est à la fois médecin et financier. Tout est là.
Médecin et publicitaire, ouais. Exactement. Médecin et publicitaire, c'est lui qui a fait la publicité du Valium, des laboratoires Roche dans les années 60 aux États-Unis, ce qui a fait du Valium un médicament blockbuster, 100 millions de dollars de vente. À l'époque, c'était inédit. Il a été introduit au Advertising Hall of Fame des États-Unis, c'est-à-dire une sorte de récompense suprême des publicitaires.
Ouais.
C'était quelqu'un, il avait ce génie de la publicité et il maniait les deux à la fois. Et c'est ça ce qui fait la clé de leur succès aujourd'hui.
Alors, les Sackler sont déjà désormais cités dans un gigantesque procès en instruction dans l'État de New York. Néanmoins, et c'est là que c'est extrêmement intéressant, politiquement, l'administration actuelle et Donald Trump, pas un mot sur les laboratoires pharmaceutiques. Tout est la faute des narcotrafiquants, et notamment des narcotrafiquants d'Amérique centrale ou d'Amérique ou de Sud-Américains.
Oui, en fait, ils jouent un peu sur la confusion. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que l'héroïne était pratiquement passée de mode aux États-Unis. Or, ces pilules-là, c'est plus ou moins des pilules d'héroïne, d'accord ? Pour les plus fortes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand il a commencé à y avoir un scandale, que les gens n'ont plus réussi à renouveler leur ordonnance aux États-Unis, qu'ils n'avaient plus d'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Ils se sont rués sur l'héroïne.
L'héroïne. Qu'ont fait les cartels mexicains ? Ils se sont dit, ah, c'est super, arrêtons la meth, arrêtons ces autres drogues. En réalité, maintenant, il y a une demande de gens qu'on n'avait pas du tout dans nos petits papiers avant. Et bien, ces gens veulent de l'héroïne. Ils ont prescrit de l'héroïne. Donc, il y a un trafic d'héroïne. Donald Trump se concentre là-dessus, mais l'origine du problème, elle est ailleurs.
L'antidouleur, l'Amérique dévastée, à voir ce soir dans Envoyé spécial. Merci beaucoup Pierre Monnevier d'avoir été notre invité. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia De Villers, comment ça va?
Ben, ça va bien. L'égalité rend-elle plus heureux? Moi je pose la question, vous l'affirmez.
Et oui, je l'affirme. Les inégalités de revenus sont le principal obstacle à la santé et au bonheur des habitants des pays développés. Nous recevons le chercheur britannique Richard Wilkinson. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.